Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h20, on est là jusqu'à minuit dans l'after. Kevin Diaz, David Guzman, Maxime Chano sont là, plus les directs. Jean-Luc, il se passe des trucs là encore.
Ah oui, là ça n'arrête pas, parce que là c'est la Ferrari de Charles Leclerc là, qui est au ralenti. Apparemment, est-ce qu'il a eu un problème où il a tapé le mur? Attends, on est en train de nous remontrer ce qui s'est produit. En tout cas, il a eu un problème majeur là, semble-t-il, puisque je l'ai vu au ralenti là il y a un instant sur l'image qu'on va sûrement nous proposer. Là, ce qu'on nous propose, c'est Hamilton qui revient sur Verstappen, ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque l'écart est extrêmement réduit entre le deuxième et le troisième de ce Grand Prix. On a vu également les raisons pour lesquelles, tout à l'heure, eh bien, Piastri a été pénalisé de 2 secondes. Il était venu percuter Albon, en fait, au freinage de la chicane du fond également. Donc, c'est la raison pour laquelle on a dû lui changer le museau. Alors, j'observe, non, je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure, cette image fugitive de la Ferrari. A priori, je ne vois pas de problème, en tout cas, pas sur le live timing. Donc, a priori, tout va bien toujours pour Hamilton, 3e, et Leclerc, 4e.
Julien, juste un mot avant de parler de Chelsea, puisqu'on parlait de Sunderland en Coupe d'Europe. Bournemouth se qualifie également pour la première fois en Coupe d'Europe. Donc, ils seront eux aussi en Ligue Europa.
Moi, c'est ça. Alors, il rêvait de la Ligue des Champions. Ça aurait été beau, puisqu'on aurait pu avoir une 6e équipe de première ligue en Ligue des Champions. Il aurait fallu que City gagne, que Liverpool perde, ça s'est pas fait. Donc au final, c'était pas la Ligue des Champions, mais ce sera l'Europa League pour la première fois. Tu l'as dit, Gilbert, en Coupe d'Europe, magnifique. Andoni Iraola, avant de quitter le club, il a quitté le club. C'était son dernier match. Je sais pas au niveau des joueurs. On sait que tous les ans, un peu, c'est un peu leur modèle finalement. Ils vendent leurs meilleurs joueurs. Rappelez-vous l'année dernière entre Zabarni par exemple et
Huijsen.
Et Huijsen, exactement, et Kerkez. Ouais. Donc c'est vrai qu'on s'attend peut-être à ce que d'autres joueurs clés puissent partir, et parmi les meilleurs, voire même Eli Kroupi Junior. Mais en tout cas, bravo à eux, parce que c'est une saison incroyable, invaincu sur 18 matchs, sur les 18 derniers matchs de la saison en championnat. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à faire.
Et tu vois, tu parlais d'Iraola, moi j'ai joué avec lui 2 ans à New York, et je peux te dire, je fais le parallèle avec ce que a dit Gundogan sur Compagnie, en disant que quand il a joué avec lui, il voyait déjà que ça sera un très bon manager. Alors si je peux te dire que j'aurais pas mis une pièce sur Andoni en tant que bon entraîneur. Ah ouais, vraiment,
vraiment.
Ah, très discret.
Tu m'as jamais raconté cette histoire.
Ah bah je te l'ai dit aujourd'hui, tiens.
Vas-y, alors c'est vrai,
c'était
ça chez
pas
lui.
Le plus expressif. Déjà son anglais, un anglais complètement cassé. Bon, j'imagine qu'entre-temps, il a dû apprendre. Super gars, attention, un très bon ping-pong.
Ouais, oui.
Ça peut faire la différence.
Un grand joueur de ping-pong.
Ça peut faire la différence.
De là à le voir entraîner de cette manière-là.
Est-ce qu'il aurait gagné le tournoi de l'after de ping-pong?
Le ping-pong,
qu'est-ce qu'il nous aurait aidé?
Il nous aurait
en finale contre.
Il nous aurait aidé au tournoi de la presse.
Kevin Diaz.
Un tournoi que Kevin n'a pas voulu faire. Non, ça, c'est autre chose.
Mais à un moment, il y a des statues.
Attendez. C'est fini à Roland Garros et Djokovic danse sur le court.
Petit pas de danse, oui, effectivement, pour Novak Djokovic, pour saluer
cette nouvelle
victoire à Roland Garros. Ça n'a pas été simple hein, pour le Serbe, puisque il a mis 2h51 pour s'imposer, donc en 4-7, 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Giovanni qui quitte le court ovationné. On le reverra, notamment à Wimbledon, parce que quand vous avez un service comme le sien, vous pouvez avoir de grosses ambitions sur le gazon londonien. Djokovic qui jouera donc au prochain tour un autre Français, Valentin Royer. Et puis on va aussi vibrer pour le Pierre Hugerbert qui va peut-être emmener les spectateurs au bout de la nuit, puisqu'il est en passe de recoller à 2 manches partout contre Sonego. C'est ça le tennis, Gilbert, ça ne s'arrête jamais.
Très bien. Écoute, tu restes pour ce match là du coup ou tu t'en vas?
Et on a un podcast à faire, donc on va évidemment
attendre la fin du match. Tennis, quand même.
Et on va le faire en direct du cours Simone Mathieu. C'est le plus de notre podcast.
Bravo. Podcast disponible sur rmc.fr et sur les applis, bien sûr. Merci Eric, bonne soirée. Je reviens. On s'en fout du ping-pong d'Iraola, c'est bien gentil, mais on va voir ce que ça va donner, surtout comme dans son futur club, n'est-ce pas? Chelsea. Bon, là, il faut quand même en parler parce que c'est quand même le bide absolu. Blouko a tout foiré, hein, que ce soit finalement Chelsea ou Strasbourg cette année sportivement, il n'y a rien qui fonctionne. Alors Chelsea, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle des problèmes, des sureffectifs, des mauvaises gestions, des mauvais choix. Bon, enfin là, cette année, t'as l'impression, Julien, que c'est la saison des dingueries ultimes, quoi. Donc, comment on va rebondir à Chelsea? Que va-t-il se passer? Bon, j'imagine qu'il va y avoir un coup de balai, il va encore y avoir 1000 mouvements dans tous les sens. Bon, enfin, cela a bien fait rigoler l'Angleterre, en tout cas.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ils ont déjà annoncé l'arrivée de Xabi Alonso, ce qui est déjà très bien pour commencer, parce que c'est finalement, quand tu regardes dans tout ce chaos, dans tout tous les dingueries, comme tu l'as très bien dit, qu'ils ont pu faire ces dernières années, quand Maresca était là et quand il a pu faire ce qu'il voulait, il y avait quand même de la cohérence et ça t'a amené, alors une Conference League, d'accord, c'est la petite Coupe d'Europe, mais c'est quand même une Coupe d'Europe. La Coupe du Monde des clubs, c'était autre chose. Et même si tu peux parler de leur parcours, la finale, c'est contre le PSG, le grand PSG, et on a, je pense, jamais vu, on peut trouver des raisons pour lesquels le PSG a perdu de cette façon-là, mais c'était quand même masterclass côté Chelsea à ce moment-là, sur notamment le début de match, et il n'y a pas eu photo sur la première période notamment, donc il y a eu des bonnes choses, mais finalement quand tu mets sur une quand tu pèses les deux, les bonnes choses que Maresca avait pu mettre en place quand il avait pu le faire et tout le reste, tout ce que ce club est en train de faire depuis l'arrivée des Américains, c'était trop négatif finalement, et c'est pour ça que ça a explosé. Quand tu finis un championnat, comme tu l'as dit Gilbert, à la 10e place, que tu as autant de victoires que de défaites en championnat, c'est une humiliation. 14 défaites en première ligue, dans cette première ligue-là, cette première ligue où on le dit depuis le début de la saison, c'est niveau moyen. Que t'es perdu 14 matchs, c'est hallucinant. Sincèrement, c'est hallucinant. Deux fois, tu perds contre Sunderland, à l'aller, au retour, chez toi et à l'extérieur. Enfin, c'est des trucs qui s'est passé hallucinant. Donc, oui, l'instabilité sur le banc, bien sûr, ils auraient jamais dû se séparer de Maresca, ils auraient jamais dû le virer comme ça. Ils l'ont viré comme un malpropre. Et sincèrement, c'était la plus grosse erreur. Après, pour Rossignol, il était pas prêt, ils s'en sont pas rendu compte, ils s'en sont rendu compte, il était déjà là, c'était compliqué, c'était trop tard, et ça encore, ça les a fait reculer encore plus. Et puis après, la saison elle est foutue de toute façon, donc le pauvre Callum McFarlane qui est arrivé comme intérim pour les 5 dernières journées, il peut rien faire, le pauvre. Et puis encore cet après-midi, pardon, t'as encore un carton rouge. C'est l'équipe qui a le plus de cartons rouges en Europe.
C'est Fofana.
Je crois que si tu comptes toutes les compétitions, c'est 10, je crois, ou 11.
Ouais, c'est Fofana qui prend le rouge. Hein. Pour moi, ça va être le gros chantier de Chelsea. Hein. Ça va être la défense centrale. Je pense qu'il y a du gros travail côté Xabi Alonso. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'aime bien.
Edouard, déjà.
Évidemment, en tant que pro strasbourgeois. Après, on a vu ce que ça a donné quand il a joué. C'était compliqué.
Il va quand même s'adapter.
Là où je suis content, moi, avec Xabi Alonso, c'est justement son côté éducateur. Et si je fais le parallèle avec Leverkusen, ce qu'il a fait avec Frimpong, ce qu'il a fait avec Florian Wirtz, j'ai bon espoir qu'il fasse de même à Chelsea, redonner un petit peu un élan, par exemple à Cole Palmer. On en a parlé un peu plus tôt hier, où est-ce que c'est vrai qu'il a été en dessous sur sa saison. Estevao, par exemple, quand il reviendra de blessure. Enfin, je trouve que Xabi Alonso, il peut être intéressant sur ce profil-là, en tout cas, de pouvoir refaire évoluer certains joueurs.
Et puis, on en parlait tout à l'heure, mais alors, pour le coup, je pense qu'il devrait appeler Prime Video. Nos amis de Blueco, parce que cette année pour eux, avec Xabi Alonso, c'est all or nothing. Là, s'ils n'y arrivent pas avec lui, je pense qu'il faut qu'ils mettent la clé sous la porte et qu'ils aillent faire autre chose. Parce que là, ils ont quand même essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et s'il n'arrive pas, lui, avec son expérience, alors en plus, il a l'expérience quand même grande d'avoir eu un échec cuisant dans sa carrière. Et on sait que pour un entraîneur, mine de rien, c'est très, très important. Et en général, c'est très, très formateur, si je peux dire. Mais là, s'il n'y arrive pas, lui, maintenant... Bah, franchement, je pense que je sais pas ce qu'on dit en Angleterre, mais dans ce cas-là,
Blueco, oui, ça peut y arriver, tu veux dire.
Non, mais c'est un énorme coup pour Chelsea déjà d'avoir réussi à convaincre, ouais, et à attirer.
Chelsea, ça reste un gros club.
C'est un beau
challenge. Aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, ils sont tellement catastrophiques. Non, je suis d'accord.
Petite constatation quand même, mon cher Julien. Strasbourg finit 8e, Chelsea 10e. C'est qui le petit frère?
C'est vrai.
Exactement.
Moi, je me permets de.
Moi, je pense que tu devrais récupérer Enzo Fernandez et Cole Palmer à Strasbourg cet été. Hein,
Vous avez filé Barco et Mega. Voilà.
J'ai une demi-finale de conférence.
J'annonce Strasbourg. J'annonce qu'Emega, je vais suivre particulièrement son temps de jeu. Hein. Je ne sais pas ce que ça va.
Ah bah, Emega, alors moi, j'en ai parlé. Moi, Emega, je lui souhaite de réussir à Chelsea, mais je le vois plutôt en prêt à Burnley au mois d'août. Hein.
Mais moi, je suis quasiment persuadé, en fait, qu'ils n'ont pas fait exprès, mais ça ne les dérange pas du tout de ne pas jouer de Coupe d'Europe, parce que vous savez qu'il y a un ratio de contrôle des coûts en fonction des dépenses joueurs, en fonction des revenus, en Première Ligue et en Coupe d'Europe, et il est plus souple en Première Ligue qu'en Coupe d'Europe. Donc en fait, de par son déficit qui est absolument abyssal et monstrueux, Chelsea aurait dû beaucoup plus vendre s'il avait joué la Coupe d'Europe, n'importe quelle Coupe d'Europe, que s'il ne la joue pas. Donc ça leur donne plus de latitude pour se reconstruire et se renforcer, ne pas jouer la Coupe d'Europe que de jouer la Coupe d'Europe. Donc finir dixième, c'est pas si grave que ça.
On parlait on parlait des cas d'école qui pourraient être étudiés dans les universités américaines.
Là, c'est financier, là. Là,
c'est, mais justement, c'est quoi l'université américaine? C'est Cambridge, je sais pas, Harvard?
Non, c'est Cambridge, c'est en Angleterre.
C'est vraiment à la
rue,
les universités américaines.
Je sais pas laquelle devra l'étudier, si une anglaise, une écossaise, une américaine. Mais là, il va falloir faire quelque chose. Parce que là, Blouko à Chelsea, mais c'est plus un cas d'école, là. C'est un cas d'espèce, je sais pas.
Tu peux le grouper avec Ineos Anis aussi, je pense que
c'est. Non, mais c'est pire. C'est pire Blouko à Chelsea.
Oui, non, mais oui, non, mais non, mais c'est vrai que c'est. Cette année, c'est vraiment. En plus, il y a eu des mauvaises nouvelles.
Faudrait que tu nous fasses un podcast, là. Un podcast after Echo, mais.
Il l'a déjà fait,
Merci. Je suis, mais.
Ah, je l'ai pas fait.
Non, vas-y, je l'ai pas écouté.
Bon, attendez, pause.
Blouko.
Ouais. On va continuer encore avec Julien quelques minutes parce qu'il y a d'autres choses à dire, notamment sur les adieux des uns et des autres ce soir. Mais d'abord, un point F1. Jean-Luc, le Grand Prix arrive vers sa fin là.
Ah oui, on est au 63e des 68 tours et une très belle manœuvre de Lewis Hamilton lui a permis de dépasser Verstappen pour la deuxième place. Donc le podium se modifie et Hamilton est en mesure de réaliser sa meilleure performance depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Il avait déjà signé un podium, hein, on s'en souvient. Mais sur la troisième marche, là, il devrait être sur la deuxième. Donc, il reste encore. C'est un sport mécanique, hein. Faut attendre jusqu'au bout. Mais Antonelli, une Mercedes. Hamilton, une Ferrari. Verstappen, une Red Bull. Et puis, Leclerc avec l'autre Ferrari. Et Hadjar, qu'on arrête à nouveau au stand. Là, apparemment, j'espère que ça n'est pas grave. Il était cinquième devant Colapinto, sixième. Lawson, septième. Pierre Gasly est également dans les points, huitième devant Sainz et Berman.